Chapitre 8. En traversant la monarchie autrichienne pour me rendre en Illyrie, je dirai de ce voyage, quoique fait avec rapidité, plus d'une instruction. Je me convainquis d'abord que cette monarchie, compacte, quoique composée de tant d'états divers, était mieux gouvernée et administrée qu'on ne le supposait généralement, qu'elle était d'ailleurs habitée et défendue par une population fidèle et patiente, que sa politique avait une sorte de longanimité propre à triompher des revers, pour lesquels on lui voyait toujours des palliatifs en réserve. Par sa persévérance dans ses maximes d'État, elle l'emportait, tôt ou tard, sur la politique mobile de circonstance. Enfin, il était évident que l'Autriche, par l'entier développement de sa puissance, allait mettre un poids décisif dans la balance de l'Europe. Je me dirigeais sur Graz, capitale de la Styrie, et par les Alpes styriennes sur Laibach, ancienne capitale du duché de Carniole, considérée alors comme le chef-lieu de nos provinces illyriennes. J'y arrivai à la fin de juillet et je m'y installai immédiatement en qualité de gouverneur général. Ces provinces, cédées par le traité de paix de Schönbrunn en 1809, se composaient du Frioul autrichien, du gouvernement de la ville et du port de Trieste, de la Carniole qui renferme la riche mine d'Idria, du cercle de Villach, d'une partie de la Croatie et de la Dalmatie, c'est-à-dire tout le pays situé à la droite de la Save, en prenant du point où cette rivière sort de la Carniole et prend son cours jusqu'à la frontière de la Bosnie. Ce dernier pays comprend la Croatie provinciale, les 6 districts de la Croatie militaire, Fiume et le littoral hongrois, l'Istrie autrichienne et tous les districts sur la rive droite de la Save, dont le Tfalvec servait de limite entre le royaume d'Italie et la terre d'Autriche. On voit par là que c'était un assemblage de parties hétérogènes se repoussant entre elles, mais qui, réunies plus longtemps à l'Empire français, eussent pu former un seul tout et acquérir par leur position une haute importance, d'autant plus que la Dalmatie et une partie de l'Albanie y étaient comprises. Mon arrivée dans ces provinces fit d'autant plus de sensation que mon nom, comme ancien maître de la police générale, y était connu, et que j'y remplaçais dans le gouvernement civil et militaire un aide-de-camp de l'empereur, un de ses familiers, Junot enfin, duc d'Abrantes, qui venait d'être pris en flagrant délit de démence. Voici ce qui était arrivé à ce pauvre Junot. L'action corrosive de l'âpre climat de Russie sur la blessure qu'il avait défigurée en Portugal, des chagrins domestiques et le ressentiment de n'avoir pas obtenu le bâton de maréchal d'Empire, affectèrent tellement ses organes qu'il donna, 6 semaines avant mon arrivée, des marques publiques de folie. Un jour, faisant monter son aide-de-camp dans sa calèche, à laquelle 6 chevaux étaient attelés et que précédait un piquet de cavalerie, lui-même se place, tout couvert de ses décorations, sur le siège du cocher et un fouet à la main. Ainsi, en évidence, il se promène pendant plusieurs heures d'une extrémité de la ville de Goritz à l'autre, au milieu de la foule des habitants étonnés. Le lendemain, il dicte les ordres et les lettres les plus absurdes, qu'il terminait par cette formule « Sur ce, monsieur le commandant, je prie sainte Cunégonde de vous avoir en sa sainte garde. » Des scènes déplorables s'étaient succédées et le malheureux Junot fut transporté en France où il mourut 15 jours après à la suite d'un accès de fureur en se précipitant des fenêtres du château de son père. Tel était l'homme que je venais remplacer dans le gouvernement général des provinces qui, le moins en harmonie avec ce qu'on appelait l'Empire français, était encore gouverné sur le pied de la conquête. À la vérité, j'allais être secondé par le lieutenant général baron Frésia, nommé commandant militaire sous mes ordres immédiats. Cet officier général, l'un des Piémontais qui s'était le plus distingué dans les armées françaises, était pénétrant et capable. Il commandait une division de cavalerie à la grande armée de Dresde quand l'empereur l'envoya dans les provinces illyriennes. Nous y trouvâmes sous un ciel doux et pur, au milieu des sites les plus variés, quelquefois d'un aspect sauvage mais toujours pittoresque, et chez des peuples offrant tour à tour les traces d'une civilisation avancée et les mœurs des temps primitifs. À mon départ de Dresde, prenant congé de l'empereur, il me dit que dans ses mains, l'Illyrie était une avant-garde au sein de l'Autriche, propre à la contenir, une sentinelle aux portes de Vienne pour forcer de marcher droit. que cependant son intention n'avait jamais été pour la garder, qui ne l'avait prise qu'en gage, ayant d'abord eu l'idée de l'échanger contre la Galicie, et aujourd'hui l'offrant à son beau-père pour le retenir dans son alliance. Je m'étais aperçu du reste qu'il avait plus d'un projet pour cette Illyrie, car il en changeait souvent. Il me dit en outre qu'à tout événement, il allait envoyer au prince vice-roi Eugène Beauharnais l'ordre de se tenir prêt sur la frontière italienne pour attaquer au cœur les États héréditaires, si la cour de Vienne se déclarait contre nous. Il ajouta qu'il prescrivait en même temps à l'armée bavaroise, au corps d'observation du maréchal Augereau et au corps de cavalerie du général Milhaud de seconder l'entreprise du vice-roi auquel il ordonnerait de pénétrer jusqu'à Vienne. Mais Napoléon pouvait-il s'abuser encore sur ses idées gigantesques et ne les mettait-il pas en avant pour contenir l'Autriche ? À peine arrivé dans mon gouvernement, je pus juger par moi-même que le temps des idées hardies était passé, qu'il ne fallait plus songer aux opérations offensives qui devaient jeter de puissantes diversions au centre même des États héréditaires. Nous n'avions en Illyrie que de faibles détachements, et depuis les désastres de la campagne de Moscou, l'état militaire du royaume d'Italie était presque nul. Trois corps d'observation en avaient été tirés successivement depuis 1812, ce qui avait épuisé tous les cadres des corps français et italiens. Les garnisons étaient absolument dégarnies de troupes, et les états de situation n'offraient que les numéros des régiments. Le vice-roi venait pourtant de recevoir l'ordre positif de former rapidement une nouvelle armée. On lui assignait en conséquence les conscriptions des départements les plus voisins du royaume d'Italie. Le recrutement fut assez rapide, mais les cadres commençaient à peine de se remplir et cette armée, qui devait être de 50 000 hommes, n'avait encore ni matériel ni organisation, lorsqu'une lettre de Prague que m'écrivait Narbonne m'annonça la rupture du congrès. Là, le mot de l'Autriche avait enfin été prononcé, le sait tout. Elle avait demandé la dissolution du duché de Varsovie et son partage entre elle, la Russie et la Prusse. Le rétablissement des villes hanséatiques dans leur indépendance, la reconstruction de la Prusse avec une frontière sur l'Elbe, la cession à l'Autriche de toutes les provinces illyriennes, y compris Trieste. On renvoyait à la paix générale la question de l'indépendance de la Hollande et de l'Espagne. Napoléon employa la journée du 9 à délibérer. Il se décide enfin à donner une première réponse dans laquelle, acceptant une partie des conditions, il en rejette d'autres. La journée du 11 se passe à en attendre les faits, mais il apprend bientôt que dans la matinée, le congrès a été dissous. Le même jour, l'Autriche abandonnant notre alliance pour celle de nos ennemis, les troupes russes accourent en Bohême, Napoléon adopte trop tard dans leur entier les conditions énoncées par M. de Metternich. Mais ces conditions qui auraient pu faire la paix le 10 ne peuvent plus rien le 12. L'Autriche déclare la guerre et ajourne indéfiniment la question de la reprise d'un congrès. À la réception de cette lettre, je ne formais plus aucun doute que l'attaque ne commença par l'Illyrie. En traversant les États héréditaires, je n'avais pas été sans m'apercevoir d'un grand mouvement de troupes autrichiennes. J'appris que le feldmaréchal-lieutenant Hiller était attendu à Agram, qu'il y était précédé par les généraux Frimont, Fenner et Morsral, que la force de l'armée dont il allait prendre le commandement s'élèverait à 40 000 hommes et que déjà les régiments qui se trouvaient dans la Croatie autrichienne étaient mis sur pied de guerre. À mon arrivée, j'en avais donné avis au prince vice-roi. Tous les rapports m'annonçaient, parmi les habitants de la Croatie française, des menées secrètes et une fermentation sourde pratiquée par des agents autrichiens envoyés en deçà de la Save. Ils y préparaient un mouvement insurrectionnel qui put faciliter une invasion. En effet, le 17 août, le lendemain du jour de l'expiration de l'armistice d'Allemagne, deux colonnes autrichiennes, sans déclaration de guerre préalable, passèrent la Save à Sisek et Agram, se dirigeant sur Karlstadt et sur Fiume. Le général Jeannin, commandant à Karlstadt, chef-lieu de la Croatie française, fit d'abord quelques dispositions de défense, mais abandonné par les soldats croates sous ses ordres et assailli par les habitants insurgés, il opéra sa retraite presque seul sur Fiume. Moins heureux, l'intendant de la Croatie, M. de Contade, arrêté dans sa fuite, fut en danger de perdre la vie. échappé, comme par miracle, à la fureur des habitants déchaînés contre les employés de l'administration française, il fut retenu prisonnier par le général Nugent, qui ne consentit à le rendre à la liberté que sur une autorisation de la cour de Vienne. La conduite des Croates dans ces circonstances ne me causa point de surprise. Je connaissais leur attachement pour le gouvernement autrichien. Presque toutes les autres parties des provinces illyriennes suivirent l'exemple de la Croatie. Bientôt, même les villes de Zara, Raguse et Cataro, défendues par les généraux Roisme, Richard et Gautier, avec de faibles garnisons italiennes et quelques employés français, furent assiégées par les troupes autrichiennes auxquelles se joignirent des bandes de dalmates. Au premier avis de ces mouvements, j'avais fait mettre en état de défense les châteaux de Laibach et de Trieste. Instruit que le général autrichien Hiller, commandant en chef l'armée ennemie, réunissait près de Klagenfurt la plus grande partie de ses forces pour forcer Villach et Tarvis et pénétrer ensuite dans le Tyrol par la vallée de la Drave, j'en donnais avis au prince vice-roi. Déjà, il avait mis son armée en mouvement sur l'Illyrie. L'arrivée à Laibach de la division italienne du général Pinault me mit en état de soutenir les hostilités. Je ne m'abusais pas cependant. Hiller opérait avec 40 000 hommes et il avait pour lui la population. Le vice-roi, réduit soit par la faiblesse numérique de son armée, soit par l'inexpérience de ses soldats à une guerre défensive, dans le seul but de gagner du temps, ne pouvait songer à reprendre la ligne de la Save que l'ennemi avait déjà dépassée. Les plus grandes forces autrichiennes se dirigeant en effet sur Klagenfurt, il était réellement à craindre que l'ennemi ne vînt à forcer les positions de Tarvis et de Villach. Ce mouvement eut dérobé la gauche de l'armée du vice-roi et ouvert aux Autrichiens, par le vallon de la Drave, l'accès du Tyrol. Le prince prit la position d'Adelberg, sa gauche aux sources de la Save et sa droite vers Trieste. Sur l'extrême gauche, il fit garder les débouchés du Tyrol par un corps détaché. Cependant, l'ennemi continua l'offensive. S'il occupa Fiume et Trieste sans de grands efforts, ces deux villes furent reprises par le général Pinault avec la même facilité. Villach, pris et repris, souffrit du combat plus encore que les combattants. La seule opération vigoureuse fut l'enlèvement du camp de Feltnitz par le lieutenant-général Grenier. Ainsi se passa tout le mois de septembre. Comme le disait l'empereur, c'était en Allemagne que devait se décider le sort de l'Italie. À Dresde, la rupture venait d'être suivie d'événements militaires plus importants. Mais la bataille de Dresde, en répandant l'allégresse parmi les partisans de l'empereur, ne fut pour eux qu'un éclair d'espérance. Ils se virent replongés tout à coup dans l'incertitude et la crainte. La nouvelle des revers de Katzbach, de Großbeeren et de Kulm commençait à transpirer à Paris et à Milan. J'apprenais par mes correspondants qu'on était resté à Paris 18 jours sans recevoir de courrier. Les rumeurs commençaient à attrister la France où l'empereur perdait la confiance de ses peuples. On me mandait que les intrigues royalistes recommençaient dans la Vendée et à Bordeaux et qu'on se disait tout bas dans les cercles et les salons de la capitale, c'est le commencement de la fin. On pouvait en dire autant de notre belle Italie. Depuis les dernières nouvelles d'Allemagne, les généraux autrichiens qui nous combattaient se montraient de plus en plus confiants. De notre côté, les troupes italiennes ne montraient plus la même ardeur. Un de leurs chefs, le général Pinault, qui d'abord avait manœuvré sous mes yeux pour la défense de l'Illyrie, trahissant le découragement secret qui commençait à gagner tous les rangs, quitta l'armée tout à coup et alla résider à Milan dans l'attente du résultat de la campagne. J'allais conférer de l'état des choses avec le prince vice-roi, que je trouvais lui-même inquiet, mais toujours dévoué à l'empereur. Il était peiné de la rupture et n'avait plus la même confiance dans la fortune de Napoléon. « Mieux eût valu, me dit-il, qu'il eût perdu, sans trop de dommages, les deux premières batailles dans le début de la campagne. Il se serait retiré à temps derrière le Rhin. » Je ne lui cachais pas que je lui en avais donné le conseil à Dresde, mais que rien n'avait pu faire impression sur son esprit. « Cela est d'autant plus fâcheux, lui dis-je, qu'à la première bataille qu'il perdra en personne, on traitera de la reconstruction politique de l'Europe sans lui. » Eugène fut frappé de cette réflexion, et pour la première fois peut-être, il sonda la fragilité de son établissement politique. Je ne m'ouvris pas davantage cette fois, peu confiant dans son entourage. Il m'avoua enfin ce que je pressentais, que les plus fortes raisons le portaient à croire que la Bavière était au moment de se détacher de notre alliance, que l'armée bavaroise sur les frontières de l'Autriche n'avait fait aucun mouvement pour arrêter ceux des Autrichiens qui s'avançaient en force, quoique avec lenteur, par le vallon de la Drave vers le Tyrol, que, ne pouvant plus défendre lui-même l'Italie allemande, il allait se retirer derrière l'Isonzo pour mettre les défilés entre lui et l'ennemi. « Si, contre toute attente, lui dis-je, vous ne pouviez vous y maintenir, tâchez, car j'ai plus de confiance dans vos talents que dans vos soldats, tâchez au moins de disputer assez longtemps le pays entre la Piave et la Dige pour donner le temps aux événements de se développer. Ce sera beaucoup si, pendant l'hiver qui s'approche, vous mettez à couvert Mantoue, Vérone, Milan et les Bouches du Pô. » Il fit aussitôt ses dispositions de retraite et, de mon côté, j'évacuai Laibach après avoir laissé dans le château un simulacre de garnison composé en grande partie de convalescents que je mis sous le commandement du colonel Léger. Je suivis l'armée qui vint occuper les lignes de l'Isonzo. Le même jour, les Autrichiens s'étant reportés en force sur Trieste, le lieutenant-général Frésia évacua définitivement, par mon ordre, cette place, ne laissant dans le château qu'une petite garnison commandée par le colonel Rabier, qui ne capitula un mois après qu'à la suite d'une très belle défense. Du quartier général de Gradisca, j'adressai à l'empereur mon rapport. Je lui exposai que le vice-roi, croyant ne devoir plus écouter que des motifs de prudence, venait d'ordonner la retraite sur l'Isonzo, que par suite de ce mouvement, les provinces illyriennes étaient désormais perdues, que cependant le rôle auquel l'armée d'Italie allait borner ses efforts avait aussi des avantages, qu'il ne laissait rien au hasard et pouvait rassurer pour quelque temps encore la tranquillité de l'Italie. J'ajoutai que ma mission touchant à son terme, je le suppliais de me donner une autre destination et que j'attendais ses ordres.